Bonsoir, merci d'être là. Permettez-moi de me présenter. Je suis Guy Berthiaume, président directeur général de Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et il me fait bien sûr le plus grand des plaisirs de vous accueillir à cette soirée consacrée à 50 ans de radio et de télévision en compagnie de Jeannette Bertrand et Françoise Guénette. Cette rencontre vient conclure notre cycle de 50 ans de culture, un cycle que nous avions abordé le 11 octobre dernier par 50 ans de chansons avec Monique Giroux et André Gagnon. Je veux remercier en cette dernière soirée nos partenaires qui ont été avec nous pendant toute l'année. Je veux les remercier de leur précieuse collaboration, en particulier Sylvie Godbout, la directrice générale de Canal Savoir. Je veux remercier aussi Télé-Québec et j'en profite pour vous dire que vous pourrez revoir pour la première fois la rencontre de ce soir, le 18 juin à 21h à Canal Savoir. Je veux remercier aussi le recteur Claude Corbeau et la doyenne de la Faculté des arts, Louise Poisson, qui ont conçu cette série et particulièrement l'équipe de Louise qui en a aussi imaginé l'articulation et la logique. Je veux d'ailleurs céder dès maintenant la parole à Louise. Après vous avoir demandé d'éteindre vos téléphones portables, je vous souhaite une excellente soirée.
Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais présenter les deux invités de ce soir, qui évidemment se passeraient de présentation, mais on m'a demandé de le faire. Jeannette Bertrand est journaliste, comédienne, écrivain, impliquée dans un grand nombre d'émissions de télévision dont elle a souvent conçu le format. Je pense à des émissions comme « Toi et moi », « Adam et Ève »,« Quelle famille », pour ne reprendre que des séries qui ont connu une très grande popularité et qui s'inscrivent bien dans la thématique qui sera abordée ce soir. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont une autobiographie en 2004, « Ma vie en trois actes », des romans, avec un grand A, Le bien des miens, Le cocon et tout récemment, Les doubles. Des pièces de théâtre aussi, dont Moi, Tarzan, Toi, Jane et Dis-moi si je dérange. Elle a reçu de nombreux prix, pour en rappeler quelques-uns. Dès 1990, elle est déclarée femme du siècle par le Salon de la femme de Montréal. En 1992, elle est nommée officier de l'Ordre national du Québec. En 2000, elle reçoit le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. En 2002, elle est faite officier de l'Ordre du Canada. En 2011, elle reçoit le prix Guy Moffette, un des grands prix du Québec, pour la radio et la télévision. La grande dame de la télévision québécoise, pour ne pas dire notre dame, de la télévision s'entretiendra ce soir avec Françoise Guénette qui mènera l'entrevue. Au cours des 40 dernières années, la journaliste Françoise Guénette est reporter à la radio de Radio-Canada, animatrice de diverses émissions de télévision, dont Droit de parole à Télé-Québec, et elle anime régulièrement des assemblées publiques. Engagée dès 1980 dans la belle aventure du magazine féministe québécois La vie en rose, dont elle a été co-rédactrice en chef. Son travail et ses positions sont bien connus des milieux de femmes, féministes ou non. Alliée du groupe Femmes, Politique et démocratie, Françoise Guénette s'est impliquée dans de nombreuses causes en vue de faire évoluer le statut et la reconnaissance des femmes. Je leur laisse tout de suite la parole, parce que 55 minutes pour 50 ans de radio et de télévision, c'est bien peu, surtout pour des femmes qui, comme on le sait, aiment beaucoup parler.
Alors, merci, Madame Poisson. D'abord, Madame Bertrand, je vais vous dire que c'est un grand plaisir et même un honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. Vraiment, je l'apprécie beaucoup, c'est un privilège. Et je vais reprendre, Madame Poisson, il faisait allusion, le titre de votre autobiographie publiée en 2004, « Ma vie en trois actes ». Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de faire, au fond, l'histoire de la radio et de la télévision québécoise en trois actes, en trois étapes, en suivant comme fil le parcours des femmes et votre parcours à vous, donc dans l'évolution de ces médias. Alors, écoutez, on reprend au début. Hein, on veut aussi, cette année, fêter les 50 ans de la création du ministère des Affaires culturelles du Québec. Mais dans les fêtes, vous avez commencé il y a 60 ans.
Oui.
Alors, la toute première de ces étapes, on pourrait dire que c'est les années 50 et les années 60. C'était la Révolution tranquille, mais c'est aussi l'émergence de quelques femmes comme vous dans les médias. Au début des années 50,
oui.
Vous avez à peine 25 ans, vous avez deux enfants, vous travaillez. Et vous direz plus tard, j'ai débuté dans ce métier à la fin de la grande noirceur. J'étais scandalisée par notre ignorance comme peuple. Il fallait que ça cesse. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous scandalisait à ce point dans la réalité des Québécoises?
Je pense que le fait que la religion ait tant de place dans notre vie, que tout était péché, qu'il ne fallait jamais parler de sexualité. Moi, je me souviens quand j'ai été menstruée et qu'il fallait le cacher absolument. Et comme l'hiver, on n'avait pas de laveuse et qu'il fallait sécher les guenilles sur la corde à linge dans la maison, dans le corridor, que c'était la honte totale. Je me disais, moi, j'ai des filles, là, j'ai deux filles. Je ne veux pas que mes filles soient si ignorantes que moi. Ouais. Et moi, je suis née révoltée. Alors, j'étais une révoltée.
Mais vous avez nourri cette révolte-là.
Ah, j'ai nourri cette révolte-là. Ouais. Alors, il fallait faire quelque chose. Ouais. Je sentais qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait que je me sorte, moi, de l'ignorance et que mes enfants ne soient pas comme moi, ne soient pas comme ma mère, ne soient pas comme toutes ces femmes que j'admirais d'une part, mais que je ne voulais pas être.
Ouais, ouais. Un exemple qui m'a frappée dans votre autobiographie, vous êtes mariée en mai 47,
oui.
Presque un an plus tard, vous êtes enceinte de jumelles, mm-hmm. et vous avez des problèmes. Bon,
7 mois plus tard.
7 mois plus tard.
Tout le monde a dit, ça y est, elle a couché
avant.
Mais
c'était que 7 mois. Vous avez failli en mourir. Mm-hmm. Et là, les médecins, normalement, à l'époque, choisissaient de sauver les enfants plutôt que la mère.
Oui. Hein? Oui, c'était... Bon, ça aussi, tout m'était sujet de révolte. Ouais. Les médecins choisissaient, comme moi, j'ai fait de l'éclampsie, ouais. j'ai été transportée à l'hôpital, je savais que je n'étais pas due, je le savais, moi, que j'étais que de 7 mois. Et à l'hôpital, mon mari n'a pas pu entrer parce que les hommes ne devaient pas voir.
À l'époque, bien sûr. Non.
Mon père, j'avais que mon père. Mon père n'a pas pu venir me voir. J'étais 3 jours en douleur. Je n'ai vu personne. Finalement, j'ai accouché. Je ne sais pas comment, je ne m'en souviens plus. Et tellement je devais être droguée, je ne sais pas. Mais mes jumelles étaient, une a vécu une journée, l'autre 2 jours. Mmh. Et je me disais, mais ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Mais si votre mari, Jean Lajeunesse, n'avait pas à ce moment-là dit « Non, vous sauvez Jeannette, on aura d'autres enfants », votre sort aurait pu être menacée
tout à fait,
par
tout
la coutume
à
l'époque.
Oui. Alors, il a choisi moi. Mais c'était rare.
Ouais.
C'était rare. Et je ne sais pas comment il s'est rendu là. Moi, j'étais complètement partie dans des douleurs affreuses. Ouais. Bon. Enfin, et quelques mois après, j'étais enceinte.
Oui, de nouveau, de Dominique.
De nouveau, oui.
Voilà, mais c'était l'époque où on célébrait les grandes familles. Vous le racontez presque toutes les semaines dans la presse. Il y avait une photo d'un monseigneur quelconque avec une famille de 21 enfants.
Oui, c'était les plus grosses familles. Et tu regardais toujours la pauvre mère. Le père était photographié, fier de lui. Et c'était de la virilité, ça, avoir 12 enfants. C'était 12 fois, mais enfin...
Ou 21.
Pas plus que ça. Mais c'était... Et la pauvre femme qui avait l'air deux fois son âge, qui des fois n'avait pas 40 ans, puis elle avait déjà toute cette trollée d'enfants.
Ouais, ouais.
Mais ça aussi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens.
Et ça, c'était une partie du sort des femmes. Quant aux femmes qui voulaient créer, qui voulaient, à la radio, la télévision n'existait pas encore, mais qui voulaient écrire, elles devaient avoir des stratégies incroyables. Hein?
Mais
je pense à Jean Després,
qui
écrivait La pension Velder,
un radio-roman à l'époque. Il y a à Radio-Canada une salle Jean Després.
Ouais.
Et à chaque fois que j'y vais, je dis aux gens qui sont là, est-ce que vous savez que c'est une femme, Laurette Auger, qui a dû prendre un nom d'homme pour qu'à Toronto, parce que tout se faisait à Toronto, qu'à Toronto, on lui donne une émission de radio-roman.
Ouais.
Parce que sinon, avec son nom, elle ne l'aurait pas eu. C'était assez extraordinaire.
Mm-hmm.
Et à cette époque-là, pour faire de la télévision et de la radio, il n'y avait pas toujours, parce que je ne l'ai jamais fait, mais il y avait le droit de cuissage.
Ouais.
Il y avait le droit. Je me souviens... Je voulais avoir une émission, un radio-roman assez classé. Et le monsieur de Toronto, d'une chaîne de savon, parce que c'était les chaînes de savon, c'est pour ça que ça s'appelait des radio-romans, parce que des savons, des quoi, Janine?
Soap opera, en français.
Des romans savons.
Des romans savons.
Alors, c'était eux.
Et mon mari s'en va à New York parce que les hommes avaient régulièrement besoin de prendre congé des enfants. C'était comme ça. C'était trop fatigué, trop fatigué. Alors, il fallait qu'il parte un peu. Alors, il était parti avec des copains à New York. Et ça sonne à la porte. J'ai mes deux filles et je viens de les coucher. Et je vais ouvrir la porte et c'est ce monsieur, monsieur M, et qui rentre avec son chapeau de feuille. Je le vois. Et son par-dessus. Son chapeau de feuille et son par-dessus. Et qui me dit, on va parler du radio-roman. Mm-hmm. Et puis...
Vous commencez à expliquer le projet.
Je suis assise à ma table de travail et puis je lui explique ce que je veux faire et bon, tout ça. Et puis, je pense que c'était une bonne idée dans le temps. Enfin, et puis, une main sur une cuisse, une main un peu partout. Et je me lève, il me dit, vous savez, si vous voulez avoir l'émission. Et je dis, oui, je la veux. Mais alors, j'ai pris son chapeau, je me souviens. J'ai pris son chapeau, j'y ai mis sa tête, puis j'ai montré la porte. Ouais. Je n'ai pas eu l'émission. Mm-hmm. Et ça, c'était dans
les mœurs. Mais c'était courant, le droit de cuissage, des commanditaires ou des réalisateurs, d'ailleurs.
C'était
hein?
très, très... Il y a pas tous, ouais, mais il y avait des réalisateurs, par exemple, dont c'était la marque de commerce. Si tu couchais, tu avais un rôle. T'avais, bon, souvent, il ne restait pas longtemps parce qu'il n'était pas bien bonne.
Ouais.
Mais
c'était... Mais là, on parle des mêmes...
Mais tu sais, il n'y a pas 100 ans de ça.
Il n'y a pas
100
ans. Il y a 60 ans.
On n'est pas dans d'autres pays.
Ouais.
On est au Québec, où ça se faisait. Grand découragement de ma part, grand découragement.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça a été ça beaucoup... J'explique beaucoup.
Mais en même temps, il y a des femmes qui se battaient. Et vous dites, on en parlait peu dans les médias à l'époque de ces femmes-là. Je pense à Thérèse Casgrain, qui avait avec d'autres quand même arraché le droit de vote en 41, qui en 40, 41, j'en oublie. Mais enfin, Idola Saint-Jean l'avait fait, Madeleine Parent, Léa Robac.
C'était des folles. Mais les hommes les considéraient comme des folles. Ils disaient des... oh mon Dieu, il y a un terme qui m'échappe.
Suffragettes.
Des suffragettes.
Oui.
Des suffragettes. Mon père m'avait dit, tu sais, des maudites folles. Qu'est-ce que penses-tu? Ils vont aller voter contre leur mari. Et mon père était un homme adorable et bon, tout ça, là. Mais il était
un homme de son époque.
De son temps, il croyait ça.
Oui, oui.
La loi nous disait qu'on n'avait pas d'âme, qu'on ne pouvait pas écouter. Enfin,
mais il y avait quand même des radios.
J'ai tellement d'affaires à dire.
Ouais. Oui, c'est ça. Revenons sur les radios-romans. C'est intéressant parce que ça s'est poursuivi un petit peu. C'est un reflet de la culture québécoise. Vous dites, on avait un peu un problème d'identité. Les radios-romans, à l'époque, c'était souvent des traductions des soaps américains, mais traduits par des Français, des Québécois français d'origine et joués avec cet accent français, comme au théâtre d'ailleurs.
Oui.
Et il y avait vraiment là une culture un peu.
C'est qu'on n'avait pas.
Ça se comprend. On ne savait pas comment parler.
On ne savait pas qui on était.
Ouais.
On ne savait pas qui on était. Il y avait le théâtre de la Poune, qui, ça, c'était dans un excès contraire. Et puis, il y avait le théâtre français. Et ceux qui ne se sentaient pas français trop, ils se disaient, mais qui on est? Il y avait un grand problème d'identité. On pense qu'on en a un, mais c'était quelque chose. Alors, il y avait l'anglomanie et la francomanie. Ouais. Alors, il y en avait qui n'aimaient que les Anglais. Et même, moi, j'ai une tante...
Qui avait marié un Écossais,
Qui avait marié un Écossais et qui ne parlait avec un accent écossais. C'est parce que elle était passée dans une classe supérieure. Je comprends tout ça, là. Mm-hmm. C'était passé dans une classe supérieure. Alors, je le comprends.
Oui, c'est ça. Et alors, donc, les radioromans. En 52, le grand événement, c'est l'arrivée de la télévision.
Oui.
On avait les radioromans et là, on va aller vers des téléromans, ce qui va devenir des téléromans.
Oui.
Alors, c'est Radio-Canada qui lance la première télévision en 1952, en septembre. Mm-hmm. Et assez vite, on va vous chercher.
À 54.
En 54.
Je n'avais même pas la télévision.
Non?
Parce que la télévision coûtait très cher.
Oui, vous dites...
C'était un meuble extraordinaire. Ça n'existait pas juste la télévision.
C'était
des meubles en bois de rose. 1 000 à cette époque-là, c'est 10 000. Alors, on n'avait pas la télévision. Alors, le soir, on allait regarder notre émission à Saint-Lambert dans un magasin qui laissait la télévision ouverte. On ne comprenait pas les paroles. Mais ce n'était pas important. On voyait la télévision.
Mais écoutez, la télévision, donc, a commencé. On est allé vous chercher. Là, vous allez faire Toi et moi.
Hein? Oui. C'était un garçon qui nous aimait beaucoup à la radio, mon mari et moi, et qui est venu nous chercher en nous disant, vous inventez une émission.
Oui. C'est là, alors, on vous voit. Dieu. Voilà. Hey. Mais vous aviez déjà fait de la radio à ce moment-là.
Oui, moi, j'avais fait de la radio. Oui, j'avais écrit pour la radio.
Ça s'appelait Jean et Jeannette.
Oui.
Et c'était déjà vraiment votre couple qui était connu, qui était déjà célèbre un peu, qu'on est allé chercher.
Oui. C'est-à-dire, pour nous, c'était tout. C'était pas tellement qu'on voulait la célébrité, Seigneur. C'est qu'on voulait deux salaires. Parce qu'on avait des enfants et que la radio, ça ne payait pas.
Oui.
Les salaires du temps, évidemment.
Pourtant, mais c'est cassé, c'était populaire. Hein,
oui, mais ça payait pas, ça payait pas vraiment beaucoup.
Alors, il faut dire que votre salaire n'était pas celui de votre mari non plus.
Non plus, non plus, mais non.
Et est-ce qu'il y avait quand même à l'époque, donc, vous avez fait cette série-là, Toi et moi, qui a duré 6 ans, 234 épisodes de 15 minutes à peu près, et ça a beaucoup marqué. Mais c'était quand même un saut de passer à la télé pour vous qui aviez fait d'abord de la radio.
Oui, c'était beaucoup d'inventions. C'était une époque où tout le monde inventait, parce que personne ne connaissait ça.
C'est ça.
Les réalisateurs, nous, on en a passé plusieurs.
Oui.
Et puis, ils passaient, puis ils ne restaient pas, parce qu'il n'y avait aucun métier. Où apprendre le métier de réalisateur, ça n'existait pas.
Mais les gens venaient du théâtre.
Ils venaient
beaucoup,
du théâtre.
Réalisateur ou comédien.
Même celui qui tirait les rideaux devenait réalisateur à ce moment-là.
OK.
Parce qu'il n'y avait personne.
Oui.
Les techniciens, il n'y avait pas d'école. Les techards n'existaient pas. Alors, c'était des photographes qui devenaient techniciens. Alors, il y avait cet esprit extraordinaire de pionnier.
De pionnier, au fond.
Mais on faisait des erreurs, on apprenait de nos erreurs.
Il fallait vous changer très rapidement, d'après ce que j'ai lu.
On était
en direct tout le temps.
On était en direct. J'ai perdu ma pudeur là. Parce que des fois, j'avais 3 changements dans 15 minutes.
Ouais.
J'avais 3 changements. Et il y avait 3 personnes qui me déshabillaient puis qui remettaient la robe, qui ne me l'attachaient pas tout le temps. Et puis tu rentrais parce qu'il fallait rester sur le bouquet. Là. C'était long un petit peu.
Ouais, quand il y avait des fous rires, c'était une expérience extraordinaire parce que vous avez aussi vécu pendant ces années-là, mais c'était déjà le cas, je pense, avant que vous vous mariez, Jean Lajeunesse. Vous aviez connu beaucoup de comédiens.
Oui.
Vous avez développé des amitiés importantes dès ce moment-là des comédiennes formidables qui sont devenues des amies, dont Mme Cito, qui est avec nous ce soir.
Oui. Janine, qui pourrait en raconter 4 heures des débuts de la télévision. 4 heures.
Alors, c'est cette image donc de couple. Et pendant plusieurs années, vous allez continuer de travailler avec Jean, avec votre mari. Vous allez créer à deux.
Oui.
Vous écrivez, il vous corrige. Il y a une dynamique qui s'installe. Mm-hmm. C'est lui qui négocie les cachets.
Oui.
C'est un modèle assez particulier. Ça, la télé, ça devait être assez unique.
Oui, c'est assez unique. Travailler en couple, d'abord. Bon, remarque qu'on s'entendait très très bien, mais quand toi t'écris. Et que tu entends, dans l'autre pièce, quelqu'un avec un crayon qui fait des... Tu le sens, la croix, là, tu sais. Ça a été assez difficile.
Oui.
Et le jour où... ça, c'est avant grand-papa. J'ai perdu mon couple vraiment là. C'est que j'ai demandé d'être... je me souviens, on s'en allait voir notre bébé, notre petit-fils, à Saint-Lambert. On habitait Westmount. Et... je lui ai dit, faudrait peut-être que je signe mes textes. Et là, ça a été définitif, ça a été fini. Mm. Parce que je comprends aussi, c'était un homme de son temps, élevé par les Jésuites, donc homme supérieur, homme qui devait pourvoyeur, et il arrivait que je faisais plus d'argent que lui. Alors, je l'ai payé.
Et c'était une époque où les femmes qui travaillaient à l'extérieur du foyer n'étaient pas forcément bien vues non plus.
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je me souviens d'avoir été invitée à Outremont et de m'être fait dire en entrant, « Moi, ma femme ne travaille pas.
»
Même mon père a dit un jour, « Moi, ma femme n'a jamais travaillé. » Comme gloire. Mais moi, je n'aurais pas pu faire autrement. Moi, je dis toujours, si je n'avais pas fait de la télévision, j'aurais été présidente de quelque chose.
Pourtant, adolescente, vous vouliez être grande reporter.
Oui, c'est ça que je voulais faire. J'ai fait des études en lettres à l'Université de Montréal pour être grand reporter. Mais quand je suis sortie de l'université, Je suis allée pour me faire engager dans les, tous les journaux de Montréal. Et on m'offrait que de faire des d'écrire des mariages.
Ouais. Mariage, décès,
oui,
ça,
mariage, décès. Oui, mariage, ouais, décès. Naissance. Ouais.
Il y avait alors, une grande reporter quand même à l'époque, hein, dès 1952, à l'ouverture de Radio-Canada, et c'était Judith Jasmin.
Oui, oui.
C'est
oui.
ça. Mais c'était vraiment
c'était,
Judith, une exception,
c'est,
Judith Jasmin?
C'est une exception. Il y en a eu quelques-unes, mais c'était, elles étaient reporters, elles avaient un aura. C'était pas la petite fille de l'Est de Montréal. Mm. C'était pas ça. Mm. C'était autre chose. L'autre jour, j'ai entendu à la radio... De Radio-Canada, j'ai entendu Judith Jasmin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle disait, j'ai fait mon bachot, mais alors avec un accent aucune française, plus parisien que les Parisiennes. Ouais. Mais c'est pas possible.
Ouais. Mais c'était beaucoup ça à l'époque, non?
C'était ça.
En tout cas, Radio-Canada.
Oui. Mais moi, j'étais pas capable de parler français.
Oui, oui. Vous aviez votre accent de la rue Frontenac.
La rue Frontenac.
La rue Frontenac, Ontario, là,
Ontario.
Au coin. Là.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui.
Cela dit, il y a quand même des téléromans, pour en arriver à la création des téléromans, vous en êtes, mais La famille Plouffe.
Oui.
Et ça a quand même été un téléroman québécois
alors,
qui, pour la première fois, montrait une famille québécoise.
Mais quelle popularité ça a eu aussi. Oui. Mais c'était toujours... Les familles qu'on nous montrait, c'était des familles un peu pauvres.
Oui.
Un peu
traditionnelles aussi.
Un peu traditionnelles. Tu ne pouvais pas te dire ça, c'est comme mes tantes. Ou,
oui.
Tu sais, il y avait les gens qui sont du milieu, là, les moyens. Là.
Oui.
Ils ne pouvaient pas s'identifier. Au Plouf, qui étaient vraiment des gens très, très pauvres.
Très pauvres. Et la mère Plouf, c'est vraiment la bonne maman, là.
Mère
de famille, hein, qui prenait la maison.
Oui, oui,
oui.
Oui,
c'est ça. Alors, ce que vous avez voulu montrer dans Toi et moi pendant 6 ans, et ensuite dans Quelle famille au tournant des années 70, c'est vraiment l'évolution des familles et des femmes modernes.
Oui.
C'était vraiment ça, votre idée.
Oui, c'est ça que je voulais faire. Quelle famille, c'est pas du tout moi.
Ouais.
Moi, j'étais une femme qui travaillait.
Oui, oui, c'est ça. Alors que Fernand Tremblay...
Alors que Fernand Tremblay, c'était... Bon, j'espère...
Femme à la maison.
À la maison, un peu niaiseuse, qui
on
connaissait pas
grand-chose.
On la voit,
là, qui répond au téléphone.
Et qui...
Avec le chien Macaire.
Oui, oui, oui. Oui.
Ouais.
Mais qui était ratoureuse, comme les femmes à cette époque-là, étaient obligées d'être ratoureuses. Ma mère me racontait que pour offrir un cadeau à mon père, elle devait le voler.
Ouais.
Elle commençait en septembre. À y voler des 25 cents pour... Mais les femmes n'avaient pas un sou.
Oui.
Alors, pour y faire un cadeau, il fallait qu'elle le vole.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Pour rester un petit peu vers la fin des années 60, il s'est passé quand même beaucoup de choses ces années-là. C'était la Révolution tranquille, c'était la montée, la crise d'octobre en 70. Mm-hmm. Il s'est passé plein de choses que vous avez suivies en écrivant pour Radio-Canada, mais aussi... Dès 1960, si je reviens un petit peu en arrière, ça a été la création de Télémétropole.
Oui.
Et voilà une autre chaîne généraliste qui commence et qui tout de suite vous invite
À
aller
après,
développer toutes sortes de
projets.
Après
Quelle famille? Oui. Après Quelle famille?
On est rendu en 74.
74. Il y a eu... Radio-Canada est devenu très élitiste.
Oui.
Et ça, ils ne voulaient plus de nous, là. Ça, là, on était persona non grata. C'était vraiment de la culture aux gens. S'amuser et faire de la culture comme moi, j'en faisais, ça ne pouvait pas compter. Et alors, Télémétropole sont venus nous chercher.
Oui, oui.
Et là, moi, je ne voulais plus écrire peut-être problème de couple. Là, je ne voulais plus écrire parce que je me disais, ça, c'est compliqué dans mon couple quand j'écris. Alors, j'ai inventé un jeu.
Oui.
Pour gagner notre vie.
Oui.
Mais, entre-temps, on m'a demandé pour faire Jeannette veut savoir.
Oui, oui.
On m'a demandé une émission. Puis je suis arrivée avec cette émission-là.
Oui, oui.
Jeannette veut savoir et on m'a dit, mais non, c'est toi qui sais.
Oui,
j'ai
oui.
dit, non,
oui, oui,
moi,
oui.
je veux savoir du monde ordinaire.
Oui.
Qu'est-ce qui... J'ai pas eu père alcoolique. Je veux avoir des hommes alcooliques. Alors, ils ne croyaient pas du tout. Puis ça a marché très bien.
Oui.
C'était une émission.
Mais en fait, vous avez fait l'aller-retour. Vous avez fait les trois chaînes de TVA.
Oui, 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 tout à fait.
Vous avez fait Radio-Canada. Oui. Ensuite, Télémétropole dans les années 60. Oui, oui. Toutes ces émissions-là.
Oui.
Ensuite, Radio-Canada.
Oui, oui.
Ensuite, Télé-Québec. Vous en avez tellement fait,
mais
il y a une cohérence dans tout ça. Dans chacun des cas, que vous parliez à des ados, comme dans l'émission « Comment, pourquoi?
»
c'est à Télémétropole.
Oui.
Que vous faisiez « Jeannette veut savoir ». Ensuite, les téléromans. L'idée était toujours de passer des messages, c'est-à-dire d'aider les gens à sortir de l'ignorance dont vous parliez.
Oui, ouais. Tout à fait.
C'est là qu'on a commencé à vous appeler éducatrice populaire ou vous donner des titres comme ça.
Oui, on m'a appelé de toutes sortes de noms.
Oui.
Oui, oui. Cochonne, ça revenait souvent.
Pourquoi donc?
Parce que j'ai toujours montré la vie sexuelle comme une chose, normal. Comme manger et boire. Mm. Et ça, ça ne marchait pas.
Ouais.
Alors, moi, j'ai eu beaucoup d'étiquettes. Ouais. Ça ne m'a jamais fatiguée tant que ça.
Ouais.
Moi, je faisais ma petite affaire. Quand la télévision est arrivée, je me suis dit, voilà comment je vais parler aux femmes.
C'est ça.
Voilà comment je vais communiquer avec eux autres.
Ouais.
C'est ma façon à moi.
Et très tôt, vous avez vraiment décidé d'aborder des sujets tabous.
Oui.
Hein, vous le dites, la contraception, la sexualité. Déjà, dans Toi et moi, je pense qu'on voyait Jean et Jeannette dormir dans le même lit. Ça
s'était
jamais fait.
Ça ne s'était jamais fait.
Jamais fait.
Imaginez-vous donc, ça ne s'était jamais fait. Les gens dormaient dans des lits jumeaux. Au Québec, personne ne couche dans des... Les couples ne couchent pas dans des lits jumeaux. Voyons donc.
Oui. Et quand les femmes étaient enceintes, et elles sortaient des ondes, hein, carrément.
Oui. Oh, mais oui. Oui. Mais oui, quand quand j'ai exigé d'avoir un lit double, ils ont dit, mais ça, j'ai dit, on est mariés tous les deux, là. C'est pas comme si c'était un acteur puis une actrice.
Oui, on est mariés dans la vie.
On est mariés dans la vie.
Et dans l'histoire.
Mais ça a donné quelque chose de merveilleux. Ça a donné, par exemple, Martin, qui venait se coucher entre nous deux.
Ah, ça, c'est dans quelle famille, un peu plus tard.
Ce qui ne s'était jamais vu.
Donc, vous montrez des couples qui dorment ensemble pour vrai. Vous montrez des femmes enceintes.
Oui.
Vous-même, vous l'êtes vers la fin de Quelle famille?
Oui.
Alors que Michel Tisser, des années auparavant, avait perdu son émission quand elle était devenue.
Oui.
C'est ça?
Ça, c'est extraordinaire. Oui. Michel Tisser, qui avait une émission de prestige.
Musicale. On se rappelle de Musicale à la télé.
Le public, c'est pas Radio-Canada, c'est le public qui a écrit. Arrêtez de nous montrer une femme enceinte. C'est indécent. Dans notre mentalité, dans la mentalité de vos parents puis des miens, c'était épouvantable. Imagine-toi d'où on sort.
Ouais.
D'où on sort. Si ce n'est pas de la grande noirceur, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, pour terminer un peu cette première étape, il y a quand même quelque chose de très important là, qui survient pour vous, à peu près du milieu des années 50 jusqu'à 69, c'est que vous acceptez de tenir dans le petit journal Le Courrier du cœur.
Mm-hmm.
Et à un moment, ça s'ajoute une agence matrimoniale, ce qui va donner la chanson de Charles Bois et Mauffe un peu plus tard. Et vous avez toujours dit, ça a été mon école de la vie.
Ah,
c'est là que j'ai appris la misère humaine, les inégalités.
Oui.
Et au fond, vous êtes toujours servi de tout ce matériel pour écrire
Mais
par la
quand,
suite.
C'est drôle parce que c'est jamais moi qui est allée vers... C'est les gens qui me demandaient. J'écris dans le petit journal une chronique ultra-féministe. Le mot n'était pas inventé, mais qui s'appelait... mon Dieu, en tout cas, c'était très, très... C'était contre les hommes.
C'était pas le refuge sentimental?
Non,
c'était le nom de la chronique.
C'est une chronique.
Oui.
Alors, je m'en prenais au père, aux frères, à tous les hommes. Mais avec humour, j'espère. Et il m'aimait beaucoup, le...
Monsieur Harvey, c'était Jean-Charles Harvey qui était rédacteur.
Alors que... Jean-Charles, vois-tu, je vous parlais du droit de cuissage. Non, je ne le dis pas.
Il ne s'est rien passé.
Parce que j'ai dit, je vais le dire à votre fille. Mais après, ça s'est arrangé. Alors, quand il a vu là, que je ne voulais pas... Mais c'était normal.
Oui.
C'était la normalité. Alors, où est-ce que j'en étais?
Ben c'est ça, ce courrier du cœur.
Alors,
vous a nourri,
alors
je
vais porter ma chronique. Il me dit... Il y avait une boîte. Il me dit, la courriériste du cœur ne veut plus le faire. Veux-tu le faire? J'ai dit, j'haïs les courriers du cœur. J'haïs ça. Ils disent rien du tout. C'est écrit, ça passe tout dans la même machine à écrire. En fait, j'aime pas ça du tout. Alors, il me dit, lis les lettres. Et là, je lis les lettres. Et c'était composé de deux parties. Inceste. Je ne savais pas que ça existait à ce point-là. Des filles qui écrivaient. Moi, j'y ai passé, ma sœur y a passé, je ne veux pas que ma plus petite sœur y passe. C'était que ça. J'ai dit, mais il faut dénoncer, il faut le dire, il faut en parler. Plus on va en parler, moins... Ça n'a pas de bon sens. Alors, ça. L'autre, c'était les homosexuels. Les gays de la campagne, le petit gars de 16 ans, 17 ans, qui se rend compte qu'il y a des désirs pour un autre homme, il pense qu'il est le seul au monde et qu'il est un monstre et qu'il va falloir qu'il se suicide parce que c'est trop épouvantable. Parce que tout le monde lui dit quand est-ce que tu vas avoir une blonde, puis je vais être grand-mère et toute la pression, tout ça. Alors là, j'ai deux sujets qui me passionnent et je dis oui, je vais le faire.
Ouais.
Mais je vais le faire à une condition, c'est que je vais écrire les lettres telles qu'elles sont, en les coupant, bien sûr, mais en coupant les trop longs, les redites,
c'est ça. Tout ça. En laissant les propos les plus authentiques possibles.
Oui, oui. Et je ne donne pas de réponse, parce que j'avais rencontré un psychologue français qui était le psychologue de Minnie Grégoire dans Elle français, enfin, et qui m'avait dit « Votre réponse ne compte pas ». Ce qui compte, c'est que la personne qui envoie une lettre, parce qu'elle n'a personne d'autre à qui parler au monde,
puisse s'exprimer.
Puisse
et être lue, être écoutée.
Être écoutée.
Ouais.
Et se dire « Je ne suis pas seule au monde
».
Parce que ce qui est pire, le pire, c'est de penser qu'on est le seul à souffrir. Ouais. Alors, et ça a été accepté.
Mais tout ça se passe, ça a l'air, c'est vrai que c'est étonnant de vous entendre qu'il y ait eu un tel désespoir, une telle misère, alors que politiquement, il se passait tellement de choses. On est rendu dans les années 60, c'est le rapport Parent, c'est la Révolution tranquille.
Choses, mais
Betty Friedan publie la mystique féminine aux États-Unis, que vous aimez beaucoup. Ces femmes d'aujourd'hui à la télé, Aline Desjardins, Françoise Fauché font des entrevues. Il y a plein de choses. La société québécoise est en train d'évoluer. Et pourtant.
Oui. Parce que quand on parle de la Révolution tranquille, ça a pris au moins 10 ans avant d'avoir les résultats. Donc, ça nous mène à 70. Oui. À 60, on était encore dans la noirceur. Les lois se faisaient, mais avant d'appliquer les lois, ça a pris des années. Et quand on parle de la Révolution tranquille, on oublie une révolution, qui est la Révolution des femmes.
Oui.
Et dans 500 ans, peut-être qu'on parlera plus de la Révolution des femmes du Québec que de la Révolution tranquille.
Oui.
Parce que ce sont les femmes qui, à un moment donné, sans s'en parler, sans qu'il y ait de mort, sans qu'il y ait même
de victimes.
Ont cessé d'aller à l'Église pour une raison très simple, c'est que les prêtres disaient, le pape disait...
Continuer de faire des enfants, ne pas avoir de plaisir, tout ça.
Ouais.
Alors, les femmes ont résisté. Mais dans les années 70, et c'est là où peut-être on arrive à la deuxième grande étape, je dirais, les années 70 et 80, oui, il y a une libéralisation des mœurs, il y a une libéralisation de... Les femmes prennent de plus en plus de place dans la société. Et dans les médias, on a l'impression qu'il y a des années d'explosion, là, où de plus en plus de femmes vont développer leur voix, vont se faire entendre. Vous le faites avec des émissions comme « Quelle famille » et tout ça.
Oui, oui.
Grand-papa ensuite. Mais il y a, dans les mêmes années, je pense à Denise Bombardier avec « Noir sur blanc », Lise Payette avec « Appelez-moi Lise » et son concours du plus bel homme,
qui
était une inversion quand même assez drôle. Et des téléromans également, c'est le temps de Rue des Pignons. Alors, on est dans cette époque-là
Il y a des femmes qui écrivent. Elles sont encore considérées comme, elles écrivent parce que leur mari était là avant ou parce que leur mari était là. Elles sont encore... ça prend du temps à changer. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais.
Je pense que le grand revirement est arrivé avec le rapport Parent. Quand on a dit, pauvre M. Parent, je ne sais pas s'il se souvient, s'il sait ce qu'il a fait à ce moment-là de dire aux filles d'étudier, que les filles pouvaient étudier. J'ai eu un doctorat honoris causa à Québec il y a quelques années.
Ben oui.
Et je regardais les filles en architecture et en lettres. Et il y en avait plus que les garçons. Et je me disais, ça va changer. Mm-hmm. En médecine, il y en a plus encore que les, que les hommes. Ça a changé ultra vite.
Mais le sentiez-vous à ce moment-là, dans les années 70, par exemple? C'était au moment de l'année de la femme en
75. Ça n'allait pas assez vite.
Ça n'allait pas assez vite. Mais il y avait plus de femmes autour de vous.
Oui.
Vous n'étiez plus la seule à peu près femme auteur avec Germaine Gavremont qui avait écrit Le Survenant. Il y avait quand même d'autres femmes. Mia Ridaise-Morissette, vous l'avez dit. Il y avait des femmes journalistes. Lisette Gervais, Andréane Lafont. Il y en avait quand même beaucoup.
Reine
Malo à Télémétropole, Huguette Proulx. Il y avait plein de femmes.
Oui, il y avait des femmes, oui.
Oui.
Mais c'était encore les hommes qui il y avait ce sentiment à la télévision qu'il en fallait des femmes, là, tu sais. Puis, il faut, là.
C'est un peu la corvée, le devoir.
Oui, oui. Tu sais, comme, comme il faut un noir, comme il faut... il faut, oui. Moi, j'avais ce sentiment-là, en tout cas. Ouais. Tu sais, qu'on n'était pas admise à les hommes. C'était les hommes qui étaient réalisateurs. Et puis, je me souviens d'un réalisateur qui m'avait dit, quand j'étais enceinte, surtout, ne me parlez pas de votre ventre. Ouais. J'ai horreur de ça. Ouais. Alors,
mais c'est un homosexuel misogyne, d'après ce que vous écrivez.
Mais quand même.
C'était peut-être une exception ou un cas plus
j'espère,
isolé.
J'espère.
Mais écoutez, dans les années 80, parce qu'on le dit beaucoup, vous avez, et dans tous les hommages qu'on vous rend, vous avez vraiment inventé des formats de télévision.
Ah oui,
Et une façon d'animer aussi qui, justement, était plus spontanée, était moins, je dirais, rigide ou constipée ou tout ça que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et est-ce que vous avez senti que vous faisiez déjà un peu école dans ces années-là? Je pense à Claire Lamarche, dans les années 80, qui est arrivée avec Droit de parole. C'est un style un peu différent aussi, moins guindé que les émissions d'information qu'on avait vues. Alors ça, c'est un peu c'est, dans votre style.
Mais ça, il était tard, là. On était dans
les années 80.
80?
Oui. Okay. Alors, c'est ça. Ça évoluait quand même un peu.
Oui, ça évoluait. Oui, ça a évolué. Mais encore une fois, pas assez vite à mon goût.
Pas assez vite à votre goût. Bon. En tout cas, tout ce temps-là, vous aviez, en 82, déjà fait beaucoup de choses. Écrit beaucoup, réalisé, animé, proposé des projets, modifié un peu la télévision populaire et la télévision en général. Hein, c'était vraiment ça. Et en 82, la Fédération des journalistes du Québec a consacré son congrès à l'enjeu des femmes dans les médias. Et on vous a rendu hommage.
Oui.
Vous vous en rappelez?
Oui, j'étais très surprise.
Lise Payette était là, il y avait beaucoup de gens. Et c'est un congrès essentiellement, beaucoup
j'étais
de femmes dans la salle.
Parce que j'étais comme comme un loup solitaire. Je faisais ma petite affaire. Et je ne m'attendais pas à être... J'étais très, très critiquée. Beaucoup, beaucoup critiquée.
Parce que trop populaire, justement?
Parce que populaire. Je me souviens, à Radio-Québec, une fois où il y avait eu un party, puis on m'avait crié, « Elle est populaire! » Comme si on disait, « Elle est sale! » Tu sais, être populaire, c'était vraiment pas cool.
Oui.
Alors, j'étais très surprise, parce que ça m'a fait très plaisir. Mais je me disais, moi, je suis là
vous
depuis très longtemps.
Vous sentiez pas que vous faisiez partie de la grande famille des femmes?
Non.
Communicatrices, journalistes?
Non, pas du tout.
Ouais. Bon, alors, c'était peut-être un peu tard, mais ça a continué par la suite.
Madame
Poisson le disait tout à l'heure, vous avez toutes sortes de récompenses et d'hommages. Mais dans les mêmes années, évidemment, il y a plus de femmes à l'écran, on le disait, à Télémétropole, un peu partout, à Télémétropole à l'époque, à Radio-Canada, Télé-Québec s'en vient. Et on voit quand même du sexisme à la télévision. Et je pense que vous avez été aussi consciente de ça. Il y a encore un deux poids, deux mesures. Vous le dites dans votre autobiographie. Et je pense, entre autres, à l'histoire de Louise Arcan, qui avait perdu son travail de journaliste télé parce qu'elle était trop vieille à 40 ans.
Oui.
Je pense que ça avait frappé beaucoup de monde à l'époque.
Oui.
C'est encore ça, un peu, la télé.
Il fallait être belle, jeune, jamais se plaindre. Faut pas que tu parles que tu as un petit à la maison qui est malade. Ils aillent ça. Il fallait que tu sois comme un homme, mais une femme belle et mince et poitrinée et tout. Il fallait que tu sois la femme du magazine et en plus un homme pour travailler. Alors,
la tyrannie de l'image.
La tyrannie de l'image.
C'est ça. Malgré les progrès, ailleurs, des Québécoises en termes de lois, de statuts sociaux.
Oui,
social,
on faisait des
de
projets
travail.
D'un bord puis de l'autre. Mais c'est difficile à bouger.
Oui.
Et moi, je me mets à la place des hommes.
Oui.
Je ne serais pas contente d'être propriétaire. Je suis le boss. Et tout à coup, mon employé me dit « J'aimerais ça être boss avec toi ». Moi, être homme, j'aimerais pas ça. Puis c'est ça qu'ils n'ont pas aimé.
Oui. Alors, en tout cas, il y a des années.
C'est ça.
Mais vous le dites là-dedans, il y a des années où vous vous sentez un peu boycotté. Vous n'avez pas du travail continuellement.
Ah non.
Vous travaillez beaucoup tout le temps parce que le courrier.
Oui. Mais j'étais coupée dans des postes de télévision à Radio-Canada pendant des années. Ils ne m'ont pas employée.
Il
a fallu que ça change de patron pour qu'on dise, bien là, ils sont populaires, eux autres, on va les prendre.
Ouais.
C'est
Mais
je ne me plains pas, là.
Non, parce que vous avez...
Moi, j'étais heureuse tout ce temps-là, puis je suis une batailleuse, puis je suis une
survivante, même,
Je suis une fonceuse, puis je suis quelqu'un qui a des idées, puis j'aime ça avoir des idées, puis j'aime ça travailler, je suis travaillante.
Oui. Et dans les années 80, parce que là, on sait que vous allez rendre, vous allez livrer les résultats, c'est Télé-Québec qui vient vous chercher.
Oui. Hein? Mm-hmm.
Et qui vous propose une émission qui s'appelle SOS J'écoute.
Oui.
Et là, vous continuez de travailler avec des comédiens. De plus en plus, vous développez une écriture dramatique qui vous demande, qui vous invite, qui vous permet de mm-hmm. travailler avec des comédiens. Et là, vous découvrez, oui. je pense, encore plus le plaisir de diriger des comédiens.
Oui. Moi, oui. C'est la seule affaire dans laquelle je peux dire « je suis bonne là-dedans ».
Oui.
« Je suis bonne là-dedans ». Or, on ne me demande jamais. Mais ça ne fait rien.
Vous l'enseignez, hein? Je l'enseigne. On y reviendra tantôt.
Non, j'enseigne l'écriture.
Oui, surtout.
J'enseigne l'écriture à l'INIS, oui.
Oui.
Depuis 16 ans.
16 ans, quand même. Oui. SOS, j'écoute.
Oui.
Et ensuite, on vous propose « Parler pour parler ».
Oui.
Et là, vous développez cette formule-là. Racontez-nous un peu, parce que c'était assez original, là aussi, à l'époque.
Oui. Ben, moi,
Et derrière vous, on voit l'image.
Oh, mon Dieu!
C'est vous, donc, vers 1985,
avec Diane.
Avec Violette.
Oui, qui est ici.
Qui est dans la salle également. Elle est là. Bonjour. Bonsoir, Violette.
Alors là, à Radio-Québec, je rencontre là deux hommes qui sont encore avec moi. Mon conjoint, ça fait 30 ans que je suis avec lui, et André Monette, qui est ici aussi, et qui va m'épauler dans mes projets, et qui m'épaule encore.
Ouais.
Et avec qui là, on peut parler puis se dire les vraies affaires puis se dire la vérité tout le temps.
Ouais.
Alors ça c'est des grandes
rencontres. Donc qui embarque dans ce projet assez osé de rassembler à chaque semaine autour d'une table pour parler d'un sujet aussi controversé que le sida ou l'homosexualité ou l'échangisme.
Ou comment mettre un condom.
Ou comment mettre un condom, ce que vous allez faire devant tout le monde.
Oui.
En mangeant avec du bon vin.
Oui, parce que mon idée était très simple. Moi, je recevais chez nous. Et je faisais à manger. Puis quand je partais mettre les plats, je disais, dites rien d'important, je reviens tout de suite. Puis je me disais, comment ça se fait que les conversations chez nous sont si animées avec nos amis? C'est parce qu'il y a de la boisson.
Et de la bonne bouffe, quand même.
Mais oui, les deux.
Ouais, ça crée
un climat. Parce qu'il y avait du vin.
Ah, oui.
Et là, j'ai demandé à André, est-ce qu'on peut avoir du vin? Bon, ça a été compliqué, hein, André? Au début, personne n'avait jamais bu. J'ai demandé à voir la loi. J'ai dit, ça doit être écrit quelque chose, que c'est défendu. Ça a l'air qu'il n'y en avait pas. Alors, on a essayé, et puis ça a marché.
Ça a marché.
Puis on avait vraiment de la bonne bouffe, des émissions. On a fait beaucoup d'émissions, je ne me souviens pas du nombre.
Ben, écoutez, je l'ai écrit quelque part, là, c'est assez incroyable. 298 émissions.
298.
De parler pour parler.
Oui.
C'est quand même assez incroyable.
Oui.
Et là, il y a même un dîner. Vous racontez là-dedans qu'un dîner de Noël, vous invitez des itinérants.
Oui.
Qui ont hâte de s'en aller. Ça marche à moitié, mais finalement, non, c'est très intéressant.
C'est assez. Il y en a un qui est complètement drogué. Mais alors, drogué complètement. Il est gelé, dur. Et il y a le roi des clochards. Lui, il y a trois tucs. Il y a un plâtre qui a depuis 3 ans. Moi, je regarde, je dis peut-être que je vais avoir des bébites sautées, mais j'en ai pas vu. Mais qui est extraordinaire. Bon, en tout cas, les recherchistes, là, ils ont trouvé sur la rue. Et ils ne mangent pas. Alors, je ne sais pas, manger. Non, ils voulaient avoir leur pas puis l'apporter à leur chum.
Ah, solidaire.
Oui, mais j'ai une histoire extraordinaire à raconter là-dessus. C'est que celui qui était gelé, pendant le commercial, il demande d'aller à la toilette. Oh, il va revenir encore pire. Il était beau. Il était une beauté, Jésus-Christ. Et quelques mois plus tard, je reçois une lettre à Radio-Québec. C'était lui. Il me dit, je me suis vue et j'ai cessé de consommer. Quelle joie, quel bonheur.
Mais ça, c'est le genre de témoignage que vous avez depuis 60 ans, dès que vous avez commencé à écrire.
Je vis pour ça. Pour ces témoignages-là.
C'est votre adrénaline, votre
combustible,
votre moteur. Donc, vous avez réussi à imposer un lit double, un chien sur un plateau, ça s'était jamais fait.
Ça s'était jamais vu.
De la boisson, de la bouffe.
Le dimanche, quand ma fille arrivait avec le chien, qui était notre chien, quand il arrivait,
c'est
pas le chien à Radio-Canada.
Oui.
Pas de chien à Radio-Canada. Il fallait qu'elle se batte avec le portier pour le laisser entrer. C'était défendu. Bon, on le faisait.
Oui.
C'est-à-dire que je ne suis pas très obéissante.
Non. Mais
Je pense que c'est ça, mon affaire.
Ce qu'on comprend, c'est qu'autant pour les formes, pour les codes de la télé, que pour les contenus, vous avez toujours défoncé des portes, au oui. fond. Non? Mais vous oui. avez dû le faire. Vous avez toujours été forcé de,
mais pour faire
de pousser les limites.
Oui, pousser les limites pour faire ce que je voulais,
oui.
sachant que c'était probablement pour marcher.
Oui. Mais pourquoi c'était si difficile? Parce qu'on a l'impression que les médias sont des lieux progressistes, d'audace, où on essaie des choses, alors que quand on vous lit, on a l'impression qu'il y avait tellement de résistance à plusieurs niveaux.
Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Oui. Tu ne vas pas donner beaucoup d'argent à un auteur, un réalisateur, un producteur, sans s'assurer que ça va être bon.
Oui.
Alors, pour être bon, ben, des fois, il faut que ça suive peut-être une recette qui est gagnante. Quand tu arrives avec des nouvelles choses, ils ont très peur. Moi oui. aussi, j'ai peur. Oui. Si ça ne marche pas. Oui. Le lit double, oui. Quelques jours avant de remettre mon scénario,
mon manuscrit.
mon manuscrit, j'ai dit, tout à coup, le monde n'aime pas ça.
Ouais.
Je suis pas sûre,
les gens ont quand
moi.
Même beaucoup aimé les deux premiers romans oui. et l'autobiographie qui s'est rendu. Oui. C'est vendu à 200 000 exemplaires au Québec, c'est un autre record. Là. Mm-hmm. C'est ça. Oui. Mais vous avez toujours battu des records. Je me rends compte que les codes d'écoute, oui. Quelle famille, tout ça, c'était des 2-3 millions d'auditeurs,
oui,
de spectateurs.
Oui, paraît-il, d'après Radio-Canada, peut-être que dans les dernières années, ça a changé, mais oui. c'est grand-papa qui a brisé toutes les codes d'écoute.
Oui, oui, en 79,
ouais,
à la dernière
en 79,
année.
Oui.
Voilà. Et pour terminer un petit peu sur ces fabuleuses, des années qui ont été fabuleuses pour vous, les années 80, parce que c'est là aussi, 80-90, là, on change déjà d'étape, de 86 à 96, vous avez écrit la série avec un grand A.
Mm.
Et ça aussi, c'est assez incroyable comme ouais. écriture, parce qu'on parle de 53 épisodes de 1h ou 1h30.
Oui.
Où vous avez encore là abordé sous une forme dramatique mm-hmm. et toujours avec des comédiens professionnels mm-hmm. comme Madame Suto qu'on
oui,
voit là. Donc
de
des
l'âge.
Sujets vraiment mm-hmm. délicats. Oui. Là aussi, vous avez essayé oui. de repousser les frontières
oui.
de notre inconscience oui. ou ignorance collective.
Oui.
Qu'est-ce qui vous menait tout ce temps-là?
Lutter contre l'ignorance,
oui.
lutter contre les préjugés, les idées reçues, toujours ça encore.
Oui. Mais ça donnait des résultats. Vous aviez l'impression que vous avez contribué au progrès social.
Ah, mais oui. Quand je rencontre le docteur Régent Thomas, qui me dit à quel point ça a aidé les émissions qu'on a faites sur le sida, la schizophrénie. Je l'ai fait. Je travaillais avec un grand spécialiste de la schizophrénie qui promène ce film-là partout quand il explique ce que c'est que la schizophrénie. C'est, oui. Ça a l'air que, c'est Radio-Québec qui le dirait, Télé-Québec maintenant, que c'était les textes les plus copiés.
Oui,
les plus volés, les plus... les gens les enregistraient puis les montraient en classe.
Ah oui?
Oui.
Et les comédiens aimaient les jouer, ça, on a
entendu
plein de témoignages.
Ils gagnaient des prix, oui.
Vous avez gagné quoi, une dizaine de Gémeaux avec ces textes-là?
Moi, j'en ai gagné 9, je pense.
Oui, bon, d'accord, vous avez vu. Ça passe comme ça, tranquillement, dans la conversation.
Mais quand je parle de ça, je ne pense jamais que c'est moi. On parle d'une autre, là.
Vous avez l'impression que vous réveillez tous les matins en étant comme cette jeune femme aussi indignée, curieuse que vous l'avez toujours été.
Oh, tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Je suis vraiment, vraiment jeune.
Ouais. Pourtant, vous avez une mémoire.
Pas dans mon dos, là, mais oui.
Vous avez une bonne mémoire. Il suffit qu'on vous rappelle des choses et tout ça revient beaucoup. Et j'arrive à la dernière étape de ce parcours très rapide, de ce survol de la télé, grâce à vous, de la télé et de la radio, surtout de la télé, bien sûr. Et on arrive aux années 90, aux années 2000. Et les années 90, me semble-t-il, ont été celles de la diversification. On a vu arriver les chaînes d'information continue, les chaînes spécialisées, Internet, évidemment, avec tout ce que ça allait nous amener de prolifération de médias sociaux maintenant.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça a donné pour les femmes dans les médias? Est-ce que, parce qu'on a vu arriver tout à coup beaucoup de jeunes femmes à l'antenne, journalistes, animatrices,
tout à fait.
À première vue, ça a été un élan, là. Il y a eu comme quelque chose d'important.
Tout
là,
à fait.
Les
temps ont changé, tant mieux, tant mieux. Et là, je pense qu'il y a, L'égalité n'est pas tout à fait faite, là, mais pas loin. Les jeunes aux études sont les égales.
Les jeunes femmes sont les égales des
jeunes garçons. Et je pense qu'il va y avoir d'autres problèmes.
Ouais.
D'autres problèmes. Je vais être là pour en parler, d'autres problèmes. Ouais. Parce que je vais être là pour en parler.
Mais ce qu'on a vu peut-être, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, c'est qu'avant, il y avait un certain modèle. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, pour être à la télé, mm-hmm. il fallait être belle, plutôt jeune, mm-hmm. bien tournée, bien parlée, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande diversité, malgré tout, de modèles de femmes à la télé et dans les fictions et en information?
Il reste encore qu'il faut être belle.
Ça nuit pas.
Belle et jeune, ça aide.
Oui. Mais on a vu des jeunes femmes noires, asiatiques. Je pense à Michael Jean, par exemple, ou à d'autres, Nathalie Chung.
Oui, il y a une grande
Mariana Mura, il y a eu une plus grande diversité.
Il y a une diversité, une grande ouverture aussi pour les projets.
Oui.
Ça se complique ailleurs, de d'autres façons.
Pour le financement.
Pour le financement, c'est compliqué. Il ne faut pas... On ne peut plus faire d'essais et d'erreurs. On ne peut plus risquer.
Ouais.
Moi, j'étais chanceuse, j'ai risqué des choses qui ont fonctionné, mais on devrait avoir droit à l'erreur. C'est se tromper une fois, là, puis bon, on se reprend.
Mais les nouvelles générations, vous l'avez dit, vous avez été au lancement pratiquement de Radio-Canada et de Télémétropole et presque de Télé-Québec ensuite. Oui. Et on apprenait sur le tas dans les premières années. Hein? Alors que les jeunes, maintenant, ont plein d'écoles de journalisme, de communication, de télé et tout ça. Et l'INIS, parlons-en un peu. Depuis 1996, on a fondé cet Institut national de l'image et du son et vous y enseignez l'écriture dramatique et un bout de temps aussi la direction de comédienne, d'après ce que j'avais vu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience d'enseignement pour vous?
C'est pour moi, là, c'est... Bon, à un moment donné, moi, j'ai 87 ans. Pas dans ma tête, mais je les ai dans... Ils sont tous à la même place, là.
Dans le dos,
Oui. Mais j'ai 87 ans, je sais certaines choses.
Oui.
Je sais des choses. Pas toutes. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais je sais des choses et en écriture dramatique. Et je veux les passer. Je crois beaucoup à la passation du savoir. Et on est habitué à acheter nos vieux toasters quand ils sont un peu fêlés. Moi, je pense que... Et ça marche. Ça marche à l'école. Personne ne me demande mon âge. Tout le monde le sait. Mais j'ai des choses à dire. Ce livre-là, Les Doubles, c'est la passation du savoir. Les couples, je m'en occupe depuis 60 ans. Je sais certaines choses.
Ouais.
Et je les passe.
Oui. Alors, ça, c'est vraiment sur les valeurs, sur l'expérience relations hommes-femmes, de l'amour et tout ça.
Oui, sur les
mais sur les techniques de télévision, les techniques d'entrevue, est-ce que ça aussi...
Non, ça, moi, j'enseigne pas ça. J'enseigne pas ça. Il y en a d'autres qui enseignent ça. Moi, je n'enseigne...
Mais l'écriture dramatique.
L'écriture dramatique, c'est comment
écrire... une histoire.
Comment écrire une histoire, point.
C'est ça. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Il y a peut-être vos étudiants dans la salle,
ça donne
est-ce que ça donne une meilleure télé que cette formation un peu plus, justement, organisée qu'avant? Est-ce que ça donne une télé, une radio intéressante?
C'est un outil. Quand tu as du talent et que tu as beaucoup d'outils, ça aide. Tu mets ton talent en valeur. Ce que j'enseigne aide à mettre le talent en valeur. C'est comme une bague, là. Tu sais, tu as un petit diamant, tu mets une grosse
monture,
un diamant a l'air gros. Ouais. Ben, c'est ça. Ça ne peut pas donner de talent, ça ne peut pas en enlever.
Ouais.
C'est un coffre d'outils qu'on leur offre.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la télé qu'on fait maintenant?
Elle est bonne.
Oui?
Oh, elle est bonne. Moi, je suis une fan de notre télévision. Le téléroman, c'est nous, ça.
Ouais.
Un peuple, quand on parlait d'identité, on sait pas, on commence un peu à savoir qui on est, mais pas sûr. Et on se regarde, puis on se dit... Ah oui, ça, c'est ma tante. C'est jamais nous autres, là. Oui. Mais ça, c'est ma tante est comme ça. Elle est haïssable comme ça. Mais on a des repères.
Oui. C'est le miroir
miroir. Hein. Oui. En France, ça n'existe pas. Ils savent qui ils sont. Les Italiens, ils savent qui ils sont. Les Américains savent qui ils sont. Il n'y a que nous autres qu'on ne sait pas encore qui on est.
Mais on vous attribue à vous le mérite d'avoir écrit le premier téléroman moderne, qui n'était pas évidemment Le Survenant, qui n'était pas La Famille Plouffe, qui était quelle famille?
Qui était de nos jours, avec les problèmes de nos jours. La femme qui veut aller travailler, la femme qui est tannée que son mari sache tout, que son mari soit pourvoyeur, qu'elle voudrait qu'il soit meilleur avec les enfants, tout ça.
Donc, on a gardé cette particularité-là, on l'a même enrichi, celle des téléromans, des fictions québécoises
télé. Oui, mais c'est sûr qu'on a enrichi. Il y a de très bons téléromans, il y a de bonnes séries, il y a de bonnes choses pour
Qu'est-ce
tout
que
le
vous
monde.
Pensez du phénomène de la télé-réalité qu'on n'a pas inventé, qu'on a importé en partie d'ailleurs, d'Europe ou d'ailleurs? Est-ce que ça fait de la bonne télé? Parce qu'à première vue, ça pourrait ressembler un petit peu aux mises en situation que vous faisiez avec Parler pour parler. Mais là, on est sur un autre terrain. Là, l'objectif n'est pas le même.
On n'est pas sur le même terrain. Non. Moi, la télé-réalité, il n'y a personne qui va me lancer des roches, trop vieille. Je ne peux pas supporter.
Pourquoi?
Je ne peux pas supporter. Il vient un âge où on dit la vérité. Parce que c'est faux. Ça joue. Tout est organisé d'avance. Ils ont le méchant, le tof, la nounoune, tout ça. Puis on les lance là-dedans. Moi, je vois aucun intérêt à ça. Mais c'est ce que je pense. Vous n'avez pas dit que j'ai raison.
Oui, vous avez tout à fait le droit, bien sûr. Un autre phénomène, parce qu'on s'approche de la fin, c'est déjà dans cette troisième étape de la télé, ce qu'on a vu apparaître, en plus de femmes auteurs comme vous, ce sont des femmes productrices. Il y avait déjà des femmes animatrices. Mm-hmm. Et là, on a vu de plus en plus de femmes jeunes ou moins jeunes prendre plus de pouvoir économique dans l'industrie de la télé. Je pense à Julie Snyder, à Véronique Cloutier, à Fabienne Larouche, bien sûr, Marie-France Bazot, Christiane Charette. Mm-hmm. Vous voyez, pour vous, est-ce que c'est...
Mais c'est très heureux.
C'est heureux?
Oui, il y a eu très longtemps une télévision d'hommes. Oui. Et là, maintenant, ce n'est pas une télévision de femmes, mais c'est l'ajout. Ce que peut ajouter une femme, ce que peut une sensibilité autre. Oh, tout simplement, là, je ne veux pas que ce soit toute la télévision faite par des femmes.
Vous dites c'est heureux, mais est-ce que ça donne une télévision un peu différente, colorée différemment?
Non,
pas forcément.
Moi, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Je pense que Fabienne, j'ai aussi, j'irais pas dire jusqu'à viril, là, mais aussi, elle a des qualités de meneuse, d'homme, mais de travaillante, d'un homme.
Oui. Mais ça aurait été inimaginable il y a encore 40 ans, d'avoir des femmes productrices.
Complètement. Mais au cinéma, les femmes, ça ne fonctionne pas.
Non.
Comment ça se fait qu'il y a si peu de femmes en cinéma? Oui.
Comment vous l'expliquez? Il y a toute la bataille menée justement par réalisatrices équitables, parce que la proportion de films financés par les projets, pour les projets de femmes est vraiment plus petite.
Je ne le sais pas. Ouais. Il y a des choses que je sais, d'autres que je ne sais pas.
Mais vous avez de l'intuition? Vous devez avoir des doutes?
Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas.
Avez-vous l'impression que... Je me suis posé la question parce que dimanche dernier, à Montréal, des jeunes femmes journalistes ont lancé une nouvelle association de femmes journalistes pour créer ce qu'on appellerait un réseau de femmes, là, parce que ces réseaux-là existent depuis longtemps chez les hommes. Et elles veulent, entre autres, proposer des formes de mentorat pour que les jeunes femmes qui arrivent dans le métier se sentent un peu mieux soutenues, développent
des trucs. Qui existent beaucoup chez
les
hommes.
Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des réseaux encore maintenant, comme ceux-là en 2012?
Mais oui, les hommes en ont. Ouais. Le réseau, ce n'est pas ni masculin ni féminin. Un réseau, c'est un réseau. Une famille, c'est une famille. Si tu aides ta famille, un réseau, c'est toujours bon. Mais tu sais, on a été élevés, moi en tout cas, à mon âge, j'ai été élevée à les femmes saillissent entre elles, les femmes
se jalousent, sont les plus dures patronnes,
ne s'aident pas, alors que c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé pendant je ne sais pas combien d'années avec Diane Jules, avec des femmes recherchistes, et on ne s'est pas crêpé le chignon, jamais, là. C'est pas vrai, ça. Alors, moi, je suis très heureuse qu'il y ait du mentorat, puisqu'il y en a chez les hommes.
C'est un peu ce que vous faites aussi en enseignant les
c'est
ce
que c'est
vraiment
ce que je fais.
La transmission, donc, d'une génération à l'autre.
Du savoir,
du savoir.
Je trouve ça heureux qu'on reconnaisse enfin que les personnes plus âgées ont des choses à apprendre aux plus jeunes. Qu'on le reconnaisse, moi, je suis ravie.
Oui, oui, oui. Est-ce que j'avais peut-être une dernière question pour vous? En plus de tout cela, vous avez reçu le prix l'an dernier, Guy Moffett.
Oui.
Le premier prix des prix du Québec, prestigieux, les prix les plus prestigieux au Québec, au fond. Et pour la première fois, on a consacré un prix aux artisans de la télé oui. et de la radio. Mm-hmm. Et c'est vous qui l'avez obtenu.
Oui.
Alors, comment vous avez reçu cet hommage? Parce que là encore, ce qu'on soulignait, c'était vos qualités de visionnaire des communications.
Ouais. C'est drôle. Hein?
Êtes-vous toujours aussi étonnée quand vous recevez des hommages comme celui-là?
J'ai bien de la misère à croire que c'est moi. Puis c'est pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, vous m'en parlez, là, puis ça me gêne, comme.
Oui, c'est t'sais, comme si... Vous avez encore le syndrome de l'imposteur à 87 ans?
Ah, tout à fait. Ah, oui. Oh. Tu sais, on dirait que c'est pas... Je le méritais-tu vraiment, là? Tu sais, il devait y en avoir une autre, là, mais il savait... Tu sais, je sais pas. Mais et c'est comme ça. J'y peux rien, là, c'est comme ça. Je suis toujours très, très gênée de recevoir un prix. J'ai l'impression que j'ai... Oui, c'est ce que j'ai fait des choses, mais j'ai reçu tellement de plaisir à le faire. Moi, j'aime travailler, j'aime travailler avec André, j'aime travailler...
André Monnette, qui a été votre producteur années.
Oui,
Travailler avec des jeunes.
Oui, j'aime travailler avec des jeunes.
Rester dans le feu de l'action, quoi.
J'aime être dans le feu de l'action. Oui.
Et là, vous avez un quatrième roman. Vous n'êtes pas une femme de maison, hein? Vous aimez faire la bouffe, mais le ménage et tout
non,
ça?
Non, non, du tout.
Mais écrire, quatrième roman en route.
Oui, oui.
Voilà, voilà une femme qui n'arrêtera jamais de travailler. Alors écoutez, on vous souhaite de ne jamais prendre votre retraite, Jeannette.
Non, je n'apprendrai jamais.
Voilà. Merci infiniment.
Merci.
Écoutez, on a une... Oui, c'est le moment d'applaudir. L'entrevue elle-même se termine.
Merci.
Alors, nous avons une quinzaine de minutes avant que les casseroles peut-être nous interrompent et que nous devions partir. Une quinzaine de minutes pour vos questions et vos commentaires, s'ils sont brefs. Alors, je vous invite tout de suite à vous présenter aux deux micros qui sont dans la salle, à vous nommer et à poser la question que vous aimeriez poser.
Il y en a
poser.
Une qui descend.
Voilà, oui.
Bonjour, je suis Laetitia Militaro, journaliste pour la communauté roumaine d'ici de Montréal pour Zigzag. J'ai rencontré Madame Jeannette dans une entrevue il y a 2 ans. Après ça, j'ai dû consacrer une année à ma mère. Elle est passée au-delà l'année passée. Mais dans le dernier moment, j'ai traduit... l'autobiographie de Madame Jeannette Bertrand, j'y ai mû.
Vous avez traduit cette énorme autobiographie en roumain?
Et les biens des miens.
Ah oui, le roman.
Alors, plusieurs fois, ma mère m'a demandé, est-ce que c'était une Québécoise ou une immigrante? j'ai dit, non maman, c'est une Québécoise souche. Oui. Mais voyons donc, c'est tellement vrai ce qu'elle a écrit. Ça pour vous dire, Madame Bertrand, qu'elle a senti tellement que vous l'avez exprimé. Mm. Et elle me disait, est-ce que c'est toi qui veux traduire comme ça ou c'est comme ça écrit en français? Alors, j'avoue sincèrement qu'à ce moment, j'ai passé avec ma mère des moments privilégiés en ce qui concerne la radio, la littérature. Puis elle m'a dit, si tu as l'occasion une fois, dites-lui qu'elle m'a écrit moi.
Oh.
Alors, Madame
Bertrand, c'est beau.
Quel beau compliment. Merci, merci.
Je suis ici pour vous dire ça et pour vous dire encore bonne santé, que vous soyez beaucoup de temps avec nous, que vous écrivez, que vous transférez tout ce que vous savez pour nous les jeunes.
Merci.
Merci encore pour tout ce que vous
merci
avez.
Beaucoup, oh, merci, madame. Merci. Oh, c'est bon témoignage. Une autre question? Alors, je vous en prie, une question, un commentaire Je sais pas, je vois Diane Jules, là. Est-ce qu'elle aura envie d'ajouter son grain de sel? Diane qui est dans la salle, qui a travaillé, qui a été Violette si longtemps et qui a voulu être Violette, un personnage assez fort. Enfin, ça s'appelle tordre un bras à quelqu'un.
Oui.
C'est pas gentil, mais merci, Diane.
D'ailleurs, je serais pas obligée de prendre un micro parce que comme je suis comédienne, il y a rien là pour moi de parler.
De... C'est ça.
Bon. Mais comme ça passe à la télé aussi, là. Écoutez, quand moi je suis issue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'ailleurs le début, j'ai 60 ans cette année, donc Jeannette, sa carrière, ben oui Jeannette, je suis rendue à 60 ans, ça se peut-tu?
C'est bien vieille!
Ben oui! Alors j'ai, comme toutes les filles de mon âge, écouté Jeannette à TVA, Jeannette veut savoir.
Oui.
Et
faire notre éducation sexuelle.
Je n'ai même jamais rêvé de travailler avec Jeannette Bertrand parce que c'était quelque chose que j'ai même jamais pensé à ça. C'était quelque chose de tout à fait, c'est loufoque, là. Ouais, tu sais, ça ne se pouvait pas. Alors, je peux dire que mon expérience de parler pour parler, parce que ce que j'ai vécu avec Jeannette, c'est parler pour parler pendant 10 ans quand même. Ouais. Puis avant ça, la Ligue nationale d'improvisation. Ouais. Parce que c'est là qu'on
vous êtes connus.
Oui, c'est là qu'on s'est connus.
J'étais pourrie.
Et moi, je disais à Jeannette, quand elle me disait, t'es tellement bonne, puis t'es bonne, puis t'es... J'ai dit, Jeannette, toi, tout ce que tu touches se transforme en or. J'ai dit, moi, quand même, que je serais bonne dans quelque chose plus que toi. Regarde, je me sens bien à l'aise avec ça. Et sens-toi à l'aise, toi aussi. Puis dans Parler pour parler, il y a eu beaucoup d'embûches qu'elle m'a tue parce que ça n'avait pas de bon sens d'avoir une bonne comme ça qui travaillait autour de la table. Puis... Alors, pour ne pas me décourager, il y a beaucoup de choses qu'elle ne m'a pas dites, qu'elle m'a dites beaucoup plus tard. Et puis, vous imaginez-vous, 298 épisodes, émissions. Hein?
Ouais.
Et moi, avec mon empathie naturelle, là-dessus, il y a sûrement 250 émissions où le chapeau me faisait personnellement. Alors, à quel point ça peut déniaiser quelqu'un? Et puis, je suis consciente aussi parce que, écoute, ça fait quand même un bout de temps que c'est fini. On se le disait, ça fait quasiment 20 ans que c'est fini, Jeannette. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et que les gens m'en parlent encore tellement.
Ça a vraiment marqué.
Et puis, je ne peux pas faire autrement qu'être fière d'avoir participé à ça. Dans un rôle qui me collait tellement à la peau puis qui était tellement moi, là. Alors, merci Jeannette, d'avoir eu un kick sur moi à un moment donné.
Alors, il nous reste quelques minutes. Vous savez, Jeannette, tout à l'heure, Mme Bertrand, vous avez commencé en disant « j'ai tellement de choses à dire ». Alors, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dites. Si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment. Il reste encore un peu de temps. Moi, j'ai peut-être une autre question qui m'intrigue depuis le début, parce que vous l'avez écrit, vous en avez parlé tout à l'heure, il y avait, au début, en tout cas, un grand fossé entre la télévision plus d'élite et la télévision populaire.
Oui, oui.
Est-ce que ce fossé-là ne s'est pas comblé ces dernières années?
Oui, tout à fait. Hein?
Je pense que ça, c'est une des choses que la télévision, par laquelle la télé s'est améliorée. Il y a une plus grande variété, mais un plus grand respect des différences aussi.
Oui, c'était quand... Télémétropole est arrivé, c'était très snobé. Le snobisme, on dirait que ça n'existe plus. Je ne sais pas comment ça se fait, mais le snobisme, par exemple, quelle famille? Parce que moi, j'ai toujours beaucoup sorti aussi, et quand j'étais invitée, les femmes, tout de suite en entrant, disaient quelle famille n'est pas permis chez nous?
Ah, pourquoi?
Alors, c'est pourquoi? Parce qu'ils disaient que les enfants répondaient aux parents. Mmh. Ils ne répondent pas. Ils répondent quand on leur parle, mais... parce que, quelque temps avant quelle famille, les enfants n'avaient pas le droit de parole.
Parler à table. Alors que dans la famille Tremblay, tous les enfants s'exprimaient.
Tout le monde s'exprimait tout le temps. Et ça, c'était scandaleux.
Oui, oui,
et quelle famille a été jouée en France?
Oui.
Entièrement.
Vous avez été accueillis comme des vedettes. S'appelait les Tremblay.
Les Tremblay.
Et quand vous êtes allés présenter en France, en Belgique,
mais
ça
alors,
a été
des vedettes. Mais alors, ils n'avaient jamais vu ça. Par exemple, le sous-sol, québécois où les enfants vont faire on ne sait pas quoi. ça n'existait pas. Alors, ils demandaient, mais comment est-ce possible qu'il y ait... Tu sais, le sous-sol, c'est venu avec les bungalows ici.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, mais ça a marché. Ça a été un succès monstre en France.
Ouais, ouais.
Et quand c'est revenu, là, on a commencé à trouver ça bon. Parce que ça avait été trouvé bon en France.
Ouais, ouais. Nul n'est prophète en son pays. De la même façon, vous avez été critiqué beaucoup plus sévèrement par certains journaux, certains médias, certains critiques que d'autres.
Hein?
Oui. Ça, vous avez trouvé ça dur à prendre.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que la critique avec mon complexe d'infériorité, moi, si j'ai une critique qui me disait pourrie, moi, je le prends pour vrai. Je dis, oh oui, c'est vrai, il y a bien raison.
Et la bonne critique,
la bonne critique, elle passe par-dessus. Ah, oh, Seigneur, faut pas être comme ça, mais je guérirai pas.
Bon,
c'est trop tard.
Alors,
on vous remercie. Ne guérissez pas. Merci beaucoup de votre attention.
Merci infiniment. Merci à la Grande Bibliothèque, M. Berthiaume. Merci au Canal Savoir. Et je vous rappelle que cette émission, la dernière de cette série de 10 qui célébrait les 50 ans de la création du ministère de la Culture, eh bien, elle sera diffusée le 18 juin à 21h au Canal Savoir. Alors, si vous voulez la conseiller à vos amis, je vous en prie, n'hésitez pas, 21h le 18 juin. Merci encore, Jeannette Bertrand.
Merci beaucoup.
Ça va?
Oui. T'es trop fatiguée? T'es vraiment bonne.
Ah, merci. J'ai pas trop interrompu.
Hein?
J'ai écouté assez.